de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditeurs. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. L'heure suivante, l'histoire d'aujourd'hui et modernisée. Et après, nous allons également présenter magazine culturel, l'Indonésie en couleur et magazine musical. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Voici le journal et on commence avec les titres. L'autorité de services financiers, ou OJK, encourage les micro-petites et moyennes entreprises et les détaillants à entrer sur le marché des capitaux en 2020. Le gouverneur de Bali, Wayan Koster, promet de se concentrer sur la promotion de l'économie du peuple balinais. Concernant les revendications chinoises et le ministère des Affaires étrangères, est demandé à renforcer leur soutien extérieur. La police française utilise des gaz lacrymogènes pour disperser les réformes massives des retraites. Le Hamas, à propos d'Israël, retient des fonds d'impôts. Le roi Salman remporte un prix pour ses efforts humanitaires. Le Parlement approuve le développement des troupes en Libye. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'autorité des services financiers encourage les micro, petites et moyennes entreprises et les investisseurs de détail à pénétrer le marché des capitaux afin de maintenir l'intégrité du marché, comme l'a déclaré le président du Conseil des commissaires de l'autorité de services financiers, Wimbo Santoso, lors de l'ouverture de négociations d'action du bâtiment de la bourse jeudi. Wimbo a ajouté que OJK élargira également sa base d'investisseurs dans la région de toute l'Indonésie en utilisant la technologie numérique. Selon lui, l'encouragement des micro, petites et moyennes entreprises et des investisseurs de détail à entrer sur le marché des capitaux est l'une des trois politiques que l'autorité de services financiers adoptera. Deux autres politiques qui seront poursuivies, à savoir l'amélioration de la gouvernance de l'industrie des marchés des capitaux par l'intermédiaire, entre autres, l'amélioration des normes sur le marché commercial, de la transparence des états financiers par le biais d'auditeurs crédibles. Le gouverneur de Bali, M. Wayan Koster, a promis de se concentrer sur l'encouragement de l'économie populaire sur l'île de Bali, tout en minimisant les écarts de croissance économique. Koster, lors de la réception récemment à Denpasar d'une audience de représentants de Banque Indonésia de la province Bali, a déclaré qu'il était plus concentré sur le domaine de l'économie populaire. Parce que selon lui, jusqu'à présent, l'économie populaire s'est révélée avoir un impact important sur la conduite de l'économie au niveau inférieur. Le membre de la Commission 1 du Parlement, Willy Aditya, a exhorté le ministère des Affaires étrangères à continuer de s'engager activement dans la diplomatie à la recherche d'un soutien plus fort des pays de l'ASEAN concernant les revendications unilatérales de la Chine sur les eaux de Natuna. Il a déclaré récemment à Jakarta que traiter avec la Chine était une guerre de soutien par procuration. Par conséquent, il est important que l'Indonésie soit en mesure de mener une forte diplomatie avec les pays de l'ASEAN. Un autre voulait également souligner que le ministère de la Défense continue de prêter attention à la défense dans le secteur maritime, compte tenu que l'Indonésie est un pays qui a la souveraineté sur une vaste zone maritime. Selon lui, l'État doit être ferme avec ceux qui veulent perturber la souveraineté de l'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. La France face à une grève pour la deuxième journée consécutive pour protester contre le projet de réforme de la retraite du gouvernement français à Paris, la France, lundi. La police française a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont bloqué jeudi un dépôt de bus à Paris, le dernier affrontement entre les autorités et les syndicats sur la réforme des retraites. La manifestation qui entre maintenant dans la 29e journée est la plus longue depuis 1968. Le syndicat français de la ligne du CGT a appelé à de nouvelles actions ce mois-ci après que le président Emmanuel Macron ait promis de faire avancer à travers l'amélioration du système de retraite. Il a déclaré mardi dans un discours de nouvel an qu'il espérait que son gouvernement atteindra un consensus avec le syndicat sur les réformes, mais sans s'écarter des principes fixés par le ministre. Le Hamas a demandé au gouvernement palestinien de coopérer pour s'opposer à la décision d'Israël de retenir des millions de dollars de fonds fiscaux palestiniens mercredi. Et selon le Hamas, la décision d'Israël est une piraterie à laquelle il faut s'opposer. Le porte-parole du Hamas, Hessem Kassem, rapporté par l'agence Anadolu jeudi, a déclaré que la décision prouvait le piratage d'Israël. Kassem a appelé les groupes palestiniens à collaborer contre la mise en œuvre et les décisions du gouvernement israélien. Le roi Salman a reçu un prix pour ses efforts humanitaires de la part de Croissant Rouge et de la Croix-Rouge arabe, ou ARCO. Le roi Salman a reçu le collier de première classe Abu Bakr al-Siddiq, symbole de la plus haute distinction de ARCO. Le prix a été décerné au roi Salman Ariad ce mercredi pour ses efforts dans l'humanité et la diplomatie au niveau régional et international. L'Arabie Saoudite a été en tête de liste des pays donateurs pour l'humanité avec une assistance dépassant les 40 milliards de dollars américains au cours des 15 dernières années. Le secrétaire général de ARCO, Saleh bin Hamad al-Touaidri, a rapporté la Gazette saoudienne jeudi, a apprécié l'aide du Royaume de l'Arabie Saoudite pour l'humanité et le développement en faveur des victimes des catastrophes et des crises. Le Parlement turc a approuvé jeudi un projet de loi pour mobiliser des troupes en Libye pour soutenir le gouvernement reconnu par l'ONU, une mesure qui risque d'aggraver le conflit fratricide qui déchire ce pays. Le Parlement raccourcit la période de récréation d'hiver pour discuter des développements dans la capitale libyenne, Tripoli. Le président de l'Assemblée nationale turque, Mustafa Sentop, a déclaré que le projet de loi avait été adopté par 325 députés, ont voté pour et 184 contre. Le parti AK, qui soutient le président Recep Tayyip Erdogan et ses alliés, détient une majorité parlementaire, tandis que tous les partis d'opposition ont voté contre le projet de loi. Le gouvernement n'a pas révélé le détail sur le déploiement possible de troupes turques en Libye. La promulgation de cette nouvelle loi permet au gouvernement de décider de l'entendu, du montant de la durée de toute mission. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, comme d'habitude, nous vous présentons maintenant le commentaire et pour le titre, Pyongyang révoque le moratoire nucléaire et l'essai de missiles balistiques intercontinentaux. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a annoncé qu'il avait levé un moratoire sur les armes nucléaires et les essais de missiles balistiques intercontinentaux. Il a fixé un délai, le 31 décembre 2009, pour que les États-Unis fassent plusieurs concessions après que les 8 mois de diplomatie avec le président Donald Trump n'aient pas donné des résultats satisfaisants. Mardi 31 décembre, lors de la 5e réunion plénière du comité central du Parti travailliste de Corée du Nord, le chef Kim Jong-un a souligné que son pays se tournerait vers des actions concrètes choquantes et ferait payer aux États-Unis la douleur supportée par le peuple de son pays. La Corée du Nord introduira de nouvelles armes stratégiques dans un proche avenir. Cependant, on ne sait toujours pas si ces essais seront menés bientôt. Il est possible que l'annonce du chef Kim Jong-un soit en coupe de feu avertissant le président Donald Trump de lever les sanctions. Pyongyang continuera de développer les armes stratégiques et les conditions préalables nécessaires à la sécurité du pays jusqu'à ce que les États-Unis changent leur politique hostile et mettent en place des mécanismes de maintien de la paix plus solides avec la Corée du Nord. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump, qui a rencontré le chef Kim Jong-un à 3 reprises, souvent appelé la retenue de la Corée du Nord comme réalisation diplomatique majeure. Contrairement à la déclaration de Kim Jong-un, lors d'une conversation avec des journalistes mardi le 31 décembre au complexe Mar-a-Lago en Floride, le président Donald Trump a déclaré qu'il entretenait toujours de très bonnes relations avec Kim Jong-un. Le président Donald Trump pense que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un respectera son engagement en faveur de faire la dénucléarisation. La Corée du Nord a effectué des tests de missiles balistiques qui peuvent atteindre les États-Unis continentaux. Mais bien sûr, la violence n'est pas le meilleur moyen de résoudre les problèmes dans la péninsule coréenne, comme l'a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, afin que Washington puisse choisir la paix et la prospérité plutôt que les différends et les batailles avec la Corée du Nord. C'est c'était le commentaire pour ce soir.
Chers amis, bonsoir. L'histoire d'aujourd'hui, le 3 janvier, est commencée avec la journée de service des forces de sécurité du président indonésien, le 3 janvier 1946. La situation sécuritaire au début de l'indépendance de la République d'Indonésie était très alarmante. La sécurité du président a commencé à être menacée par l'occupation de Jakarta par les Hollandais le 3 janvier 1946. Les services de renseignement indonésiens à l'époque prédisaient que les Hollandais souhaitaient prendre en otage le président et le vice-président de l'Indonésie sur ordre de M. Pringgodigdo. En tant que secrétaire d'État, on a décidé de mener à bien l'opération de sauvetage de dirigeants nationaux en le déplaçant à Yogyakarta. Lors de l'exécution de l'opération de sauvetage à cette époque, des éléments de l'armée indonésienne et de la police d'Indonésie ont travaillé ensemble. Pour commémorer le succès de sauvetage du président de la République d'Indonésie pour la première fois, le 3 janvier 1946 a été choisi comme journée de service des forces de sécurité du président indonésien. Le 3 janvier 1959, l'Alaska est officiellement devenu l'État des États-Unis. L'Alaska est le plus grand État américain et le plus riche en ressources naturelles. L'Alaska n'est pas connecté aux États-Unis continentaux, c'est donc une exclave. L'exclave fait partie d'une unité administrative, généralement un État qui est séparé à l'exclusion des îles et entouré d'autres unités administratives. Le 30 mars 1867, les États-Unis ont acheté l'Alaska, une zone de 1,5 million de kilomètres carrés de la Russie, au prix de 7,2 millions de dollars américains, ou seulement 99 milliards rupiah. En mai 1884, un gouvernement civil a été formé après que l'Alaska était un district et le 3 janvier 1959, l'Alaska est officiellement devenu le 49e État des États-Unis. Le 3 janvier 1986, le héros national Nani Ouattabone est décédé. Nani Ouattabone est né à Gorontalo le 30 janvier 1907. Son combat a commencé quand elle a fondé et est devenue le secrétaire de Jean Gorontalo à Surabaya en 1923. 5 ans plus tard, elle est devenue présidente de la branche de Gorontalo du Parti national indonésien PNI. Le 3 janvier 1986, Nani Ouattabone est décédée. À l'occasion de la commémoration de la journée des héros 2003, la présidente Megawati Sukarnoputri a remis le titre de héros national à Nani Ouattabone par l'intermédiaire de son héritier, représenté par l'un de ses fils, Fauzi Ouattabone, au Palais d'État le 7 novembre 2003. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Teringatkan masa lalu seindah lembayung dianmu pesona izinkan diri bertanya
santailah kawan luangkan sejenak persembahan sebuah lagu tiada ombak badai bahana nestapa biarkan aku melangkah
bila esok rasa
hasrat dan pelukan irama senandung rindu
Benny Jack dan Perry kisah bak legenda sampaikan salamku ini bila esok mentari datang berderai cipta irama sambaran bossa nova
bersembahan.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et vous avez écouté tout à l'heure la première chanson de la voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, nous allons présenter la rubrique Modernisie.
C'est le retard pour la rubrique suivante. Voici donc comment l'Indonésie est en pour le titre. L'Indonésie a réussi à libérer la céramique de l'imposition de sauvegarde des Philippines. L'Indonésie a réussi à libérer les produits céramiques utilisés pour les planchers et le mur de l'imposition de mesures de sécurité des droits d'importation ou de sauvegarde menées par les Philippines. L'exemption tarifaire est le résultat d'une enquête sur l'affaire de sauvegarde annoncée par la Commission tarifaire des Philippines à la mi-décembre dernière. Le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a déclaré à Jakarta que l'exemption des droits à l'importation sur les mesures de sécurité était clairement très bénéfique pour l'Indonésie, en particulier après que les Philippines avaient imposé une taxe sur les produits céramiques indonésiens pendant 10 ans. Cette exemption rendra les produits céramiques indonésiens plus compétitifs sur le marché philippin. Selon lui, l'exemption de l'imposition de droits à l'importation était due au fait que les produits céramiques de l'Indonésie ne sont pas prouvés de faire une forte augmentation des importations. Conformément au règlement de l'Organisation mondiale du commerce sur l'accord de sauvegarde, Ampay est autorisé à appliquer des droits d'importation supplémentaires sur un produit importé s'il constate une forte augmentation des importations qui entraîne une perte ou une menace de perte pour l'industrie nationale. Selon Agus Suparmanto, ces derniers temps, de nombreux pays comme les Philippines ont posé activement des instruments de sécurité commerciale en Indonésie, entre autres en appliquant une garantie agricole spéciale sur les produits de café instantané, ainsi qu'en enquêtant sur les mesures de sécurité commerciale pour les produits en ciment et en verre. Pendant ce temps, la directrice de la sécurité commerciale du ministère du Commerce, Pratnyawati, a ajouté que les résultats positifs de l'enquête n'ont pas pu être dissociés du rôle actif du gouvernement indonésien avec les producteurs et les exportateurs au cours du processus d'inspection. Depuis le début de l'enquête, le gouvernement a suivi les procédures conformément au règlement de l'OMC. À partir de l'inscription en tant que partie intéressée, en coordination avec les acteurs commerciaux jusqu'à la présentation d'objections écrites et jusqu'aux audiences publiques. Serge Ritard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman.
Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa.
Oh indahnya masa SMA. Meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemana indahnya masa SMA. Meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemana pun luang kaki ini melangkah nanti, ku ingin lo mengerti, bagiku kau teman sejati.
Thank you.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici magazine culturel intitulé Le village de Liang Dara, la destination touristique intéressante à Flores. Le ministère du Tourisme n'a jamais cessé de renforcer la destination touristique dans l'ouest de Manggarai. De plus, pour la destination comme Labuan Bajo. L'objectif est d'augmenter les visites touristiques. Le village de Liang Dara est situé dans le district de Mbeliling, la région de Manggarai occidental sur l'île de Flores dans l'est de Nusa Tenggara. Ce village est situé à une altitude de 700 mètres au-dessous du niveau de la mer. La distance est d'environ 20 km de la ville de Labuan Bajo, la capitale de la région de Manggarai occidental, soit environ une heure en transport terrestre. Liang Dara est l'un des six villages qui est devenu un programme gouvernemental pour devenir un village écotouristique. Le village propose un forfait de tourisme culturel qui se compose de six types d'attractions, à savoir la réception des invités, la danse de Chachi ou la danse de guerre, la danse de Akomawo ou la danse de plantation de riz, la danse de Dudu Ndaki ou Chal qui est roulé d'un invité à l'autre tout en dansant. Et aussi la danse de Checha Kalu, c'est une danse d'osso de bambou. Et la danse de Sanda, les participants se tiennent en cercle, tape du pied tout en chantant des chansons folkloriques et se retourne en se tenant la main. Ce forfait culturel se termine par la livraison de boissons locales au café et de sopi ou bien vin local aux invités. Le café et le vin sont vraiment authentiques, transformés par les résidents. Dans ce village touristique, vous pouvez trouver des gens qui font du tissu tissé en matière traditionnelle. Vous pouvez l'acheter comme souvenir lorsque vous visitez le village de Liang Dara. Pour ceux d'entre vous qui aiment explorer et aventurer en randonnée, ce serait très agréable de voyager dans ce village. Le village touristique de Liang Dara propose une randonnée dans la forêt de Mbeliling et une randonnée dans le jardin ou le village. Le trekking à Mbeliling ou marcher jusqu'à la colline de Mbeliling prend 5 jusqu'à 6 heures et vous devez donc rester chez les habitants. La forêt de Mbeliling a une topographie vallonnée et vous pouvez voir une variété de flore et faune dans cette forêt. Et aussi certaines sont des animaux en voie de disparition. La richesse des écosystèmes et l'environnement qui est encore vert font de cette forêt une forêt touristique. Dans la forêt, vous verrez des rizières vertes avec des eaux claires, une forêt de noisetiers et des oiseaux typiques de l'île de Flores. Le trekking de jardin et village dure 30 jusqu'à 60 minutes. Vous êtes invité à voir le panorama naturel du village ou du jardin, à regarder la mer de Savo, regarder le jardinage communautaire et l'agriculture. De plus, pour ceux d'entre vous qui veulent profiter des eaux douces, vous pouvez visiter la cascade dans le village de Liangdara. Il y a trois cascades ici, telles que la cascade de Liang Kantor, la cascade de Wai Rebus et la cascade de Wai Satar. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé Le village de Liangdara, la destination touristique intéressante à Flores. Merci à tous et au revoir.
De Jakarta, voici la Voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Kali ini kan ku ubah. Aku berdiri di tepian ruang hampa. Izinkanlah.
Chers amis des quatre coins du monde, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter la rubrique L'Indonésie en couleur.
Chers amis, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur, informant sur le lancement de l'avion sans pilote Elang Hitam. L'avion sans pilote Punamel Elang Hitam a été lancé le lundi 30 décembre à Bandung. Cet avion est utilisé pour effectuer la surveillance du maintien de la souveraineté de la République unitaire d'Indonésie, tant dans les zones terrestres que maritimes. Cet avion est une production de consortium des aéronefs sans pilote composé de l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie, le ministère de la Défense et l'Air Force en tant qu'utilisateur, l'Institut technologique Bandung en tant que partenaire des universités, PT Dirgantara Indonesia en tant que partenaire de l'industrie aéronautique, PT LEN Persero qui a développé le système de contrôle et le frais, et l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace. Les drones de type avion sans pilote Puna ou de moyenne altitude longue endurance MAL, appelés Elang Hitam, peuvent voler sans escale pendant plus de 24 heures. Le chef de l'Agence pour l'évaluation et l'application des technologies, Hamam Riza, a déclaré que l'avion sans pilote MEL, Elang Hitam, est une production des enfants du pays, allant de la conception à l'ingénierie. Le nom Elang Hitam dans Punamel a été donné par le ministre de la Recherche et de la Technologie, chef de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, Bambang PS Brojonegoro. Hamam Riza a expliqué que le développement de Punamel est destiné à soutenir l'indépendance du principal système de défense du pays, ainsi qu'à soutenir les activités de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage. Punamel Elang Hitam devrait être armé de missiles et capable de voler à une altitude de croisière allant jusqu'à 23 000 pieds. Cette surveillance est effectuée en prévision des menaces qui se produisent dans les zones frontalières ainsi que d'autres cas tels que le terrorisme, la contrebande, la piraterie, le vol de ressources naturelles, y compris l'exploitation illégale et le vol de poissons. Hamam Riza espère que la présence de Punamel sera en mesure de répondre aux défis liés au contrôle de la souveraineté de la République d'Indonésie et d'encourager l'Indonésie à devenir un pays développé, indépendant et compétitif. On espère qu'avec cette indépendance, Punamel fabriqué en Indonésie pourra répondre aux besoins de l'escadron indonésien de l'armée de l'air pour pouvoir surveiller le territoire de la République d'Indonésie par le biais de véhicules aériens. Punamel a des spécifications comprenant une puissance de croisière et de communication jusqu'à 250 km, une durée de vol continu jusqu'à 30 heures, dimension de la longueur de l'avion de 8,3 mètres et une envergure de 16 mètres. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, auditeurs dans le monde entier, merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter Magazine Musical. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter Magazine Musical. Et cette fois, je présenterai une chanson de Nord de Sumatra intitulée Sing Sing So. Cette chanson raconte l'histoire d'un jeune Batak sur son bateau sur le lac de Toba. Il a vraiment manqué son amant. Il espère que le vent emportera son bateau à l'endroit où se trouve son idole. Dans les paroles et le rythme de la chanson, Queen Cook entendra pour ressentir l'angoisse du jeune homme qui n'habite que le bateau en entendant que le vent l'amène vers la femme qu'il aime. Une chanson douce et mélancolique. Bon, chers amis, écoutons maintenant Vicky Sianipar avec une chanson intitulée Sing Sing So. Merci à tous et au revoir.
Berbicar di mata ni arida Tersongong parbicar ni mata ni arida.
Voice of Indonesia.
Thank you. todim tiur do tok tong lakani bawa di narsonyo arbi chani matani arida.
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.